Dans la Bible, le nom est extrêmement important. Nous avons d'ailleurs dans notre Bible des généalogies, c'est-à-dire des listes incroyables de noms de père en fils. Et on se demande souvent à quoi ça sert. Dans la Bible, le nom est extrêmement important. Le nom, c'est la personne, le nom, c'est l'identité. Le nom, c'est la spécificité de quelqu'un. D'ailleurs, dès le départ, dès la création, Dieu va donner des noms à toutes choses. Dès les premiers jours, Dieu va créer, il va donner des noms. La période éclairée, ce sera le jour. La période sombre, ce sera la nuit. L'endroit sec, ce sera la terre. L'amas des eaux, ce sera la mer. Et ainsi de suite. Dieu va donner un nom à chaque chose. Et puis, il va donner aussi un nom aux êtres. Adam, c'est son nom. Et Adam va recevoir de Dieu cette même responsabilité qui est celle du Créateur, de donner un nom. Adam va donner un nom aux animaux. C'est lui qui va leur donner leur nom. C'est dire à quel point donner un nom est extrêmement important. Dieu va partager cette tâche avec l'être humain. C'est un peu comme s'il partageait avec l'homme cette capacité créatrice. D'ailleurs, on en a parlé ce matin, des bébés sont nés dans notre église. La première chose que les parents ont à faire, c'est de trouver un nom. Parfois, c'est difficile de trouver un nom. On voudrait trouver le meilleur nom possible. Et vous vous souvenez que ce nom va rester avec cet enfant toute sa vie. À moins que, comme dans le texte biblique, Dieu change le nom de certaines personnes. Vous vous souvenez que Abraham a eu son nom changé. Jacob aussi a eu son nom changé. Certains personnages bibliques ont vu leur nom changé par Dieu parce que leur relation avec Dieu avait changé. Ils étaient passés par une conversion profonde. D'ailleurs, Dieu va même donner un commandement qui va graviter autour de son nom, nous demandant de ne pas prendre son nom en vain, parce que le nom est extrêmement important. Nos frères hébreux ont tant de respect pour le nom de Dieu qu'ils ne le prononcent jamais. Ils vont dire « Adonai, le Seigneur », pour ne pas avoir à prononcer le nom de Dieu et de prendre le risque de le faire en manquant de respect. Le nom est extrêmement important. Daniel s'est vu infliger une épreuve particulière, amené en exil, déporté, et on a voulu changer son identité, on a voulu changer son nom, lui enlever ce nom qui était le sien, Daniel, Dieu est mon juge. On a voulu l'appeler Belshazzar, gardien des trésors de Bel, un dieu païen. Et Daniel a résisté à ce lavage de cerveau. Il voulait garder son identité dans sa relation avec Dieu. Dieu est mon juge. C'est une bonne nouvelle que Dieu soit notre juge. Je préfère que mon juge soit Dieu plutôt que n'importe qui d'autre. Ainsi, Dieu donne des noms à certaines personnes. Il a donné aux parents la responsabilité d'appeler les enfants, mais de temps en temps, Dieu intervient pour donner le nom d'un de ses serviteurs. C'est ainsi que Dieu va s'approcher de Zacharie et lui dire, « Voilà, cet enfant qui va naître, tu lui donneras le nom de Jean. Jean est son nom. » Et Jean veut dire « Dieu est bon ». Jean, cet enfant qui va grandir et que l'on va appeler Jean-Baptiste pour ne pas le confondre avec l'évangéliste Jean, est un homme qui aura une tâche particulière de la part du Seigneur. Il devra annoncer, préparer, ouvrir la voie pour la venue de Jésus. Le nom de Jésus est extrêmement important. Regardez dans le livre des Actes au chapitre 4, ce que les apôtres déclarent avec puissance, avec audace, avec autorité. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset 12, il est écrit, Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » le nom de Jésus. C'est un nom puissant, Dieu Sauveur. Le nom a un sens, le nom a une puissance. Regardez encore dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, où encore une fois il est question de ce nom. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, au verset 9, il est écrit, Philippiens, chapitre 2, verset 9, c'est pourquoi ainsi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus. Et pour prendre un texte dans l'Ancien Testament, regardez avec moi dans les psaumes. Le psaume 20, au verset 6, il est question là encore du nom de Dieu. Psaume 20, verset 6, dit ceci, « Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. » C'est un nom puissant. Il demande non seulement notre respect, mais notre admiration. Et lorsque Dieu donne un nom à ses serviteurs, c'est parce qu'il veut leur donner la responsabilité de porter le nom de Dieu plus loin. C'est ce que Dieu avait demandé à Jean. Jean-Baptiste avait une mission bien particulière. Il devait préparer la première venue de Jésus. Il devait ouvrir le chemin, appeler ce peuple qui était le peuple de Dieu à la repentance, les inviter à vivre un réveil et une réforme dans leur vie. Jean avait cette responsabilité de transmettre la bonne nouvelle, disant « Le royaume de Dieu est venu, il est parmi vous ». Jean devait annoncer que le salut était là, disponible par la foi dans celui qui allait s'offrir en sacrifice pour eux. Jean avait un rôle semblable à celui de Élie dans l'Ancien Testament. Et je crois que ce rôle appartient aussi à l'Église adventiste aujourd'hui. Non pas pour préparer la première venue de Jésus, mais pour préparer la deuxième. Pour annoncer aussi au monde qu'il y a une bonne nouvelle à recevoir. Pour annoncer au monde que le salut est disponible aujourd'hui encore par la foi en Jésus-Christ. Je crois que cette Église a aussi ce rôle, semblable à celui d'Élie en son temps, semblable à celui de Jean-Baptiste en son temps, d'inviter ce peuple à arrêter de clocher des deux pieds et de choisir résolument à qui il veut appartenir. D'ailleurs, au mois d'octobre dernier, il y a 150 ans exactement, le nom de l'Église adventiste a été choisi pour la première fois. Nous célébrons, autrement dit, notre 150e anniversaire. À quelques semaines près, en octobre 1860, ces croyants qui étaient attachés à la parole de Dieu ont choisi ce nom, Adventiste du septième jour. C'est un nom qu'ils ont choisi, conscients d'être inspirés par Dieu pour le faire. Après beaucoup de prières, beaucoup d'études, beaucoup de concertations. Ils ont finalement senti que le Seigneur les appelait à prendre un nom et à s'organiser. Ils ont pris ce nom Adventiste du septième jour. Parce qu'il y avait dans ce nom l'essence même du message dont ils se sentaient les porteurs. Un message qui est exprimé, résumé dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et suivants. Ces gens ont choisi ce nom parce qu'ils ne voulaient pas rester victimes d'une erreur du passé. Ils ne voulaient pas rester accablés par la déception de 1844. Ils étaient convaincus que s'il y a une erreur quelque part, c'était de leur côté, pas du côté de Dieu. Et ils étaient résolus de trouver dans les Écritures le fondement même de la volonté de Dieu pour eux à ce moment-là. C'est pourquoi ils n'étaient satisfaits de ce qu'ils avaient trouvé, que quand ils pouvaient dire « Ainsi parle l'Éternel ». Ces jeunes, car ils étaient jeunes, étaient des gens qui avaient accepté de se séparer du monde pour servir, et servir à tout prix. Et quand vous lisez la vie de ces pionniers, comme nous les appelons, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qu'ils n'aient sacrifié pour servir. Ces jeunes n'avaient aucune idée de ce que Dieu allait faire avec leur témoignage, avec leur travail. Ces jeunes n'avaient aucune idée que 150 ans plus tard, ce message qu'ils avaient à cœur aurait rejoint 210 pays dans le monde. Que ce mouvement qu'ils avaient démarré, poussé par l'Esprit de Dieu, compterait 150 ans plus tard 17 millions de membres adultes. Ces gens ne voulaient que la volonté de Dieu, que la parole de Dieu, sola scriptura. Ils faisaient en cela écho à ce que les réformateurs des siècles avant avaient déjà dit. Ils ne voulaient avancer qu'avec sola scriptura, l'écriture seule. De la même manière aujourd'hui, nous restons avec imprimé dans notre esprit ce passage que je voudrais relire avec vous dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Ce texte que vous connaissez bien et qui est d'une grande clarté sur ce sujet. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La parole de Dieu est la parole de Dieu seul. Ces gens qui étaient sortis d'une grande déception, pensant que Jésus allait revenir de leur vivant, avaient un objectif en tête, découvrir la volonté de Dieu dans les Écritures. Ils étaient capables de passer des jours et des nuits entières en prière, à l'étude, pour savoir ce que Dieu avait à leur dire. Et il est vrai que nous n'avons pas à ce point, avec cet acharnement, d'étudier les Écritures pour être sûr de comprendre ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Nous bénéficions, il est vrai, de cet héritage et de ce travail extraordinaire qu'ils ont accompli dans leur temps. Ellen White, dans le livre Parabole, écrit « Comme au premier siècle de l'ère chrétienne, les vérités destinées spécialement à notre époque ne se trouvent pas chez les autorités ecclésiastiques, mais chez des hommes et des femmes qui ne sont ni trop savants, ni trop sages à leurs propres yeux pour croire à la parole de Dieu. » Et aujourd'hui encore, c'est simplement par la parole de Dieu que nous pourrons connaître la volonté de Dieu. Dans le livre « Tragédie des siècles », un chapitre entier est consacré à cela et ce chapitre s'appelle « Les Écritures, notre seule sauvegarde ». Et c'est en effet ce que sont les Écritures pour nous aujourd'hui. Il est vrai que dans ce temps, Dieu a béni cette Église en lui accordant, selon les Écritures, le don de prophétie. Et ce don s'est manifesté dans le ministère d'Ellen White. Un ministère qui a duré 70 ans. Un ministère suffisamment long pour qu'on puisse largement en évaluer les fruits et les résultats. C'est par ce moyen d'ailleurs que Jésus disait que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Bien entendu, le travail d'Ellen White, son ministère et ses écrits ne prennent absolument jamais la place des Écritures. C'est une erreur que certains ont commis d'ailleurs, de mettre les écrits d'Ellen White comme s'ils représentaient les Écritures saintes. Cependant, je crois que ce que nous trouvons dans les Écritures demeure vrai encore pour nous aujourd'hui. Vous vous souvenez, dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20 et au verset 20, se trouve cette exhortation du roi Josaphat qui disait à son peuple « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Si on vous demandait de résumer en un mot peut-être ou en une petite phrase le message de ce livre des Saintes Écritures, vous viendriez peut-être avec plusieurs passages qui s'y trouvent et qui sont significatifs pour vous. Mais je crois que le message central de ces Écritures se trouve résumé dans un petit passage de la première épître de Jean, où Jean dit « Dieu est amour ». Maintenant, pour ceux qui ont fait de la lecture, vous avez peut-être remarqué ceci. Le livre « Patriarches et prophètes », c'est le livre que Ellen White a écrit et qui commence à décrire les Saintes Écritures dès la première page. Le livre Patriarches et Prophètes commence avec Genèse 1, verset 1. Mais ce livre commence par ces mots « Dieu est amour ». Et pour ceux qui ont lu encore et qui ont été jusqu'à lire le livre « Tragédie des siècles », si vous avez lu ce livre en entier, si vous êtes arrivé jusqu'à la dernière page, la dernière phrase du livre « Tragédie des siècles », « Dieu est amour ». Tous ces écrits, en réalité, ne sont que l'écho des Écritures qui nous font comprendre l'amour de Dieu en Jésus-Christ. De sorte que nous puissions donner gloire à son nom. Le nom est important. D'ailleurs, de la même manière que Dieu a donné ce nom à Jean-Baptiste, de la même manière, Dieu a inspiré ce nom pour l'Église adventiste. Le nom adventiste du septième jour est une prédication en trois mots, si vous le voulez, mais une prédication puissante qui reprend l'essentiel, le centre même du message pour aujourd'hui. Adventiste nous parle de la deuxième venue de Jésus. Cette deuxième venue qui est de plus en plus évidente par les signes des temps autour de nous, c'est la glorieuse espérance. C'est la fin, enfin, du grand conflit entre le bien et le mal. C'est aussi la fin de ce conflit entre le bien et le mal dans chacune de nos vies, de nos expériences personnelles. Et c'est la raison pour laquelle c'est pour nous la glorieuse espérance. Le retour de Jésus, la venue de Jésus, l'Adventus Domini, c'est en réalité l'accomplissement de la promesse qui est faite dans les Écritures. Et encore une fois, dans la première épître de Jean, il nous est dit quelle est cette promesse. Au chapitre 4 et au verset 25, il nous est dit « La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Et c'est pour cela que Jésus revient, pour donner à tous ceux qui l'attendent la vie éternelle. Tous ceux qui ont accepté de croire au nom du Fils de Dieu. La venue de Jésus demande cependant notre préparation. L'annoncer est une chose, mais y être prêt est une autre chose. Et lorsqu'on y pense, on se rend compte que cette préparation, elle nous échappe, elle est hors de notre portée, nous n'y arrivons pas nous-mêmes. Cette préparation n'est réalisable que grâce à l'action du Saint-Esprit dans nos vies, grâce à l'action de Dieu qui accomplit en nous ce que nous ne pouvons pas accomplir pour nous-mêmes. Adventiste est une invitation à se préparer pour la deuxième venue de Jésus. Du septième jour parle de la loi de Dieu. Cette loi immuable, cette loi inchangeable, cette loi qui en fait gouverne non seulement l'univers aujourd'hui, mais gouverne aussi le monde de Dieu pour l'éternité, cette loi qui sera le mode d'emploi pour tous les sauvés, pour le reste de l'éternité, la loi inchangeable de Dieu. Ainsi, lorsque l'on parle du septième jour, du sabbat, on parle d'une façon incontournable de cette vérité biblique que nous avons acceptée, selon laquelle Dieu a créé notre monde en six jours littéraux consécutifs, se terminant par le septième jour, le sabbat, jour de repos, signe particulier qu'il a donné comme une marque de ce repos que nous sommes invités à recevoir par la foi grâce à ce que Jésus a fait pour nous. Le salut même se trouve là dans le sabbat parce que le sabbat c'est le repos et nous avons fait les uns et les autres l'expérience que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Combien d'entre nous avons essayé d'accumuler ces bonnes choses à faire pour mériter rien ? Le Seigneur nous propose de nous reposer sur ce que Lui a fait pour nous sauver. C'est le message même du sabbat. Mais vous l'avez vu dans le monde d'aujourd'hui, comme parfois même dans l'Église, certains essayent de détruire la puissance de cette institution, de la loi de Dieu, et du sabbat. Dans le livre « Message choisi », volume 2, Ellen White écrit ceci. « Il m'a été dit que certains hommes emploieront tous les moyens pour amoindrir la différence qui sépare les adventistes du septième jour de ceux qui observent le premier jour de la semaine. Tout le monde va participer à cette controverse. Et le temps est court. Ce n'est pas le moment d'abaisser notre drapeau. Si pour nous le sabbat est important, si nous pensons qu'il est important pour Dieu et pour son nom, ce n'est pas le moment d'abaisser notre drapeau. Dans ce même livre, quelques pages plus loin, l'auteur continue « Le Seigneur a permis à l'ennemi de la vérité de faire un gros effort contre le sabbat du quatrième commandement. Par là, il veut éveiller un puissant intérêt en faveur de la question qui tracera une ligne de démarcation dans les derniers jours. Ceci sera le message du troisième ange qui sera proclamé dans le monde avec puissance. » Une ligne de démarcation. Il y a dans notre nom même l'importance de cette loi qui va tracer cette ligne de démarcation dans le monde au moment où Jésus va revenir. En réalité, est-ce que cette ligne de démarcation a été clairement marquée dans notre vie aussi à nous? Est-ce que nous avons accepté d'être couverts par la justice du Christ en nous préparant pour sa venue? Est-ce que nous avons accepté que sa loi règne en nous en attendant que cette ligne de démarcation soit placée dans le monde? Sommes-nous finalement véritablement, non pas simplement inscrits sur les registres de l'Église, mais sommes-nous véritablement ce que notre nom veut dire, des adventistes du septième jour? Nous célébrons en cette fin d'année les 150 ans de ce nom donné par Dieu à ce mouvement mondial, adventiste du septième jour. Mais nous nous posons la question, après 150 anniversaires, combien donc d'anniversaires allons-nous encore célébrer de ce nom-là avant qu'il prenne tout son sens dans la venue de Jésus? Cette question souligne l'importance de notre mission. L'Église adventiste a aujourd'hui une mission bien particulière dans un monde où en réalité cette Église remonte le courant. Nous sommes invités à apporter au monde d'aujourd'hui une contre-culture, une autre alternative à toutes ces cultures qui se développent dans le monde d'aujourd'hui, telles que le pluralisme, ou bien le relativisme, ou l'humanisme, qui sont tellement facilement acclamés par le monde d'aujourd'hui, qui cherchent quelque chose qui lui permettra de mettre Dieu de côté. L'Église adventiste d'aujourd'hui a un rôle qui consiste à apporter une contre-culture, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'être qui correspond à ce que les Écritures proposent pour ceux qui font partie de l'Église du reste à la fin des temps, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cette Église du reste est décrite dans le livre de l'Apocalypse. Cette Église du reste est une Église de réveil et une Église de réforme. Et en réalité, il n'y aura jamais de réveil ni de réforme si ce n'est par l'action de l'Esprit. Et comme nous dit les Écritures, l'Esprit viendra pour ceux qui le lui demandent. Nous sommes invités à demander au Seigneur d'accomplir ce que nous ne pouvons accomplir, d'accomplir dans son Église ce réveil et cette réforme qui ne viennent que par le fruit de l'étude de sa parole, de la prière et de cette demande de l'action du Saint-Esprit. Dans le 9e volume des témoignages, en anglais, Ellen White écrit ceci. « L'œuvre de Dieu sur cette terre ne sera jamais terminée tant que les hommes et les femmes formant les membres de nos églises ne se rallieront pour le travail et uniront leurs efforts avec ceux des prédicateurs et des officiers de l'Église. » C'est un travail d'équipe. C'est un travail dans lequel nous sommes tous impliqués. C'est un travail dans lequel nous sommes tous des messagers et des ambassadeurs et auquel nous sommes tous invités à nous joindre en donnant le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes invités finalement à nous souvenir de notre nom. Souvenez-vous de votre nom. Ceux qui se sont éloignés, à ceux qui sont découragés, à ceux qui sont désabusés, à ceux qui sont devenus nonchalants, souvenez-vous de votre nom. À ceux qui ont négligé la prière, qui ont négligé l'étude, à ceux qui ont négligé le temps pour Dieu parce que le monde a peu à peu grignoté ce temps et il leur est maintenant consacré entièrement. À tous ceux qui n'ont plus ce temps pour Dieu, souvenez-vous de votre nom. À tous ceux qui ont abandonné le service de Dieu, pour en venir au service de soi, souvenez-vous de votre nom. À tous ceux qui ont abandonné l'enseignement des Écritures, qui se sont attachés à d'autres doctrines, à des fables modernes ou à des traditions, souvenez-vous de votre nom. À ceux qui sont devenus amers ou critiques, à ceux qui ont souffert dans l'Église et qui n'en ont pas guéri, souvenez-vous de votre nom. À ceux qui ont arrêté de faire confiance à Dieu et qui ne lui apportent plus leurs dîmes et leurs offrandes pour soutenir l'œuvre qu'ils ont embrassée, souvenez-vous de votre nom. À tous ceux qui ont perdu cette vision que Jésus revient bientôt, souvenez-vous de votre nom. À tous ceux qui ont perdu le sens de la loi de Dieu et de sa sainteté, souvenez-vous de votre nom. Dans le deuxième livre des Chroniques se trouve cet appel que vous connaissez bien et que j'aimerais relire avec vous dans 2 Chroniques chapitre 7, ce verset 14. Un appel qui retentit depuis l'Ancien Testament, un appel que nous connaissons bien, un appel au réveil et à la consécration. Ce texte, vous le connaissez, certains le connaissent par cœur, où il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Cette promesse, si elle était vraie pour le peuple de Dieu de cette époque, elle l'est encore pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui. De sorte que puissent se réaliser les autres promesses qui sont dans les Écritures, comme par exemple celle qui se trouve dans le livre de Joël au chapitre 2. Dans le livre de Joël au chapitre 2, j'aimerais simplement lire dans ce chapitre quelques versets. Au verset 12, il est dit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Verset 15. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Verset 16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Verset 17. Qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple ». Et un peu plus loin, au verset 23, il est dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison, comme autrefois ». De la même manière que Dieu a envoyé la Pentecôte pour démarrer l'Église avec puissance, et souvenez-vous qu'en ce jour-là, 3000 personnes ont été baptisées, de la même manière le Seigneur veut envoyer sur son Église la pluie de l'arrière-saison pour achever l'œuvre qui a été commencée. Mais l'œuvre nous paraît énorme, et il est clair que si le Seigneur veut terminer l'œuvre par les outils qu'il a choisis, il faudra que la Pentecôte de la fin soit infiniment plus puissante que la Pentecôte du début pour que cette œuvre se termine dans le monde entier. Mais si nous voulons que le Seigneur nous accorde son esprit, il y a des conditions à remplir. Dans le livre Message choisi, volume 1, Ellen White écrit ceci. C'est à nous de remplir les conditions sur la base desquelles Dieu a promis d'accorder ses bénédictions. Par une confession de nos péchés, accompagnée d'humiliation, de repentance et de prières ferventes. Le programme n'est pas nouveau, il est simple. Et alors que nous terminons cette année avec un anniversaire, le 150e anniversaire du nom que nous portons. Alors que nous sommes en train de regarder vers une nouvelle année avec l'inconnu qu'elle comporte, je vous invite à vous souvenir de votre nom. Dans l'année qui vient, nous allons ensemble nous atteler à cette mission qui nous a été donnée, c'est de répandre la bonne nouvelle, de répandre le nom de Jésus. Nous sommes invités pour cela à demander au Seigneur de nous donner déjà son esprit pour nous préparer à être tous impliqués dans une mission particulière, à la mesure de nos forces, mais à la mesure aussi du nom glorieux au nom de qui nous allons. Alors qu'une nouvelle année s'apprête à commencer, souvenez-vous de votre nom. Amen.